France Inter.
C'est la manger. Ah oui, avec Leïla Kadrioufoudali, Lisa Del Moitier. Avec Julie Conti. Avec Rebecca Balestra. Avec Julien Santini. Daniel Morin.
Coucou Julien.
Daniel. Et notre invité, Tonino Bellacquista.
France Inter. La bande originale. Leïla Kadour et Nagui.
Bonjour. Bienvenue Tonino. Je pense que c'est la première fois qu'on vous accueille dans cette bande originale. Tonino Bellacquista, auteur, romancier, co-scénariste, essentiellement avec Jacques Audiard. Et puis, c'est Faits irréels, tiré de Faits irréels, nouveau roman chez Gallimard, déambulation d'un éditeur à quelques jours de déposer son bilan. Histoire totalement irréelle, comme vous le dites dans le titre.
Oui, complètement irréelle.
Qui est né comment? Puisque vous avez été éditeur un peu, vous.
Ah non, jamais, justement. Non, jamais. C'est incapable de faire ce boulot.
Il y a beaucoup d'auteurs qui sont.
Oui. Ah, moi, j'aurais été incapable. Édition. Je pense que si on m'avait soumis le manuscrit de L'étranger de Camus, je pense que je.
Moi, pareil. Les Arabes, ça va, quoi.
Voilà. Non, c'est pour ça que c'est un vrai métier. Moi, ça me fascine. J'en ai rencontré beaucoup, mais jamais j'aurais pu faire
être
ça.
Être capable de déceler le talent à la première lecture.
Alors, après, il y en a plein qui décèlent pas le talent non plus, qui publient plein de trucs. Pardon. Je veux dire, il faut voir le ratio entre ce que t'as publié et ce que t'as pas publié.
C'est justement le propos du livre.
De Camus, c'est surcoté.
Petit tour de table. Si vous aviez un livre à écrire, Lisa Del Moitier.
Ah, trop dur.
Quel genre, quel style ou sur quoi tu l'écrirais? Est-ce que ça serait des brèves, un roman totalement inventé, un truc bio?
Je pense que ce serait un roman et je pense que pour commencer, je m'imposerais un lieu unique, une journée.
Un truc bien compliqué.
Ouais, voilà. Mmh. Ça, avec des grosses contraintes.
Unité de temps, de lieu et d'action.
Une espèce de huis clos.
Les fondamentaux, quoi.
Ouais, c'est ça. Okay, on va commencer avec la base. Ouais.
Bah, c'est bien parti. Leïla,
j'aurais adoré écrire un roman du 19e.
C'est facile, tu vas au but de Chaumont.
Ça va être long.
C'est vendredi.
Un roman d'apprentissage. J'ai une tendresse pour des romans d'apprentissage du 19e, des Balzac, des Stendhal.
Mais est-ce que tu inventes tout ou est-ce que tu t'inspirais de toi?
Un roman du 19e, par exemple, si vous écrivez aujourd'hui l'histoire d'une femme qui se marie avec un médecin, mais qui s'ennuie à la maison.
Une petite
Bovary. Et puis elle va avoir un amant, et puis elle va s'acheter plein de toilettes, etc.
Ruiner,
c'est pas mal, ça. Il y a... Prenez des notes.
Je ne connais pas un éditeur sur la place qui accepterait
ce
manuscrit-là, cette histoire-là. Aujourd'hui, je sais pas, cette histoire-là n'aurait pas beaucoup de chance.
Bien sûr, mais la consigne, c'est de dire quel genre de récit vous aimeriez écrire. Donc un roman d'apprentissage, genre 19e,
absolument.
Mais pas avec une histoire qu'on connaît déjà.
Ce que je veux dire,
le roman d'apprentissage, c'est quoi? Souvent, c'est l'ascension d'une personnalité, donc on pourrait la transposer aujourd'hui.
C'est le roman que je mets au-dessus de tout. Mais ce que je veux dire, c'est que les éditeurs vont plus aller vers ce type de sujet, hélas.
C'est justement le propos. On finit le tour, je vous laisse.
Moi,
je pense que je ferai une autobiographie sur mon expérience à France Inter, parce que j'aurais
déjà.
J'aurais beaucoup de têtes à faire tomber. Surtout celle de Nagui.
Quoi, Julie?
Je sais pas, un roman inspiré de faits réels sur la vie sous le franquisme en Espagne. Je crois que ça m'intéresserait bien. Ce qui me plairait beaucoup.
Historique. Okay.
Ouais. Un truc drôle, quoi.
Je l'ai réalisé. Ce que je voulais faire, j'ai écrit un livre qui s'appelle La vie, les femmes, Claude Lévi-Strauss et moi, et qui est paru aux éditions numériques de Québec, une maison d'édition qui s'appelle Matopée. Je l'ai vendu à 3 exemplaires, c'est vrai.
Oh, wow.
C'était en 2015.
Mais c'est bien.
Ah. T'es un auteur.
On peut le trouver?
Non, je le crois pas.
Je vous promets, la vie de ma mère. Je sais pas comment dire.
Pas la peine de nous menacer.
Eh bien, moi, je coupe, mais j'ai un livre qui va sortir dans un mois. J'avais pas assez de travail avec la bande originale, donc j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle Le Bonheur, 10 secrets.
T'as trouvé?
Alors, justement.
Et tu fais ce tête-là.
C'est complètement con. Et ça sort dans quelques.
Très bien.
Génial.
Daniel, alors toi, tu écris déjà des livres, des contes pour enfants, des histoires.
La poule, super cool.
Et je suis sur un truc, là, j'écris la suite de la Bible.
La Bible 2.
La Bible 2.
Retour.
Ça va cartonner.
Mais c'est une BD.
T'aimerais faire quoi?
Souvent, des éditeurs en manque d'inspiration, évidemment, me disent « Bonjour, avez-vous envie d'écrire un livre ?»
Ils sont polis déjà.
Oui, ils sont polis. Évidemment, on te pose la question en se disant « Mais avec les vedettes de la chanson, du cinéma, les invités que l'on a croisés, il y a forcément plein de trucs à raconter. » Et c'est pas ce qui m'intéresse m'intéresserait le plus, c'est plutôt d'aller vers une quête personnelle pour une transmission, à la limite pour un livre qui ne se vendrait pas, mais qui pourrait servir à mes enfants en disant au moins je sais ce que papa a vécu. C'est plus ça.
Quoi. Tu peux le
faire. J'ai pas le temps. J'ai pas.
Marc, c'est pas faux.
J'ai pas le temps.
C'est, alors, c'est pas les stars qui écrivent. Trouve quelqu'un qui écrit.
Alors ça, maintenant je peux balancer parce qu'elle est plus de ce monde. C'est Françoise Verny qui était venue me voir.
Ah oui.
Non mais grande dame, on est d'accord.
Ah oui, bien sûr, absolument.
Qui était venue me voir en me disant qui fumait, je sais plus, des boyards sans filtre sur, enfin clope sur clope quoi. Elle rentre dans mon bureau et étant non fumeur, mais grande dame de l'édition, je lui dis rien avec une voix comme ça.
Totalement. Dark Vador.
Il faut absolument que vous écriviez un livre.
Mon ex Daniel.
Françoise, je ne sais pas écrire. Aimé, hein. Je le ferai pour vous. Ça, alors ça m'a un peu choqué en me disant c'est. Bah non, mais à l'époque, je ne savais pas, que c'était pas les auteurs qui écrivaient leurs livres.
Bah là, déjà, c'est pas ta vraie voix. Alors.
Pas aujourd'hui, en tout cas. Mais justement, les déambulations de votre héros, Tonino, justement, va dans ce monde de l'édition et on voit toutes les facettes. Toutes les possibilités dans ce qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un coup déjà les prête-noms qui est l'auteur qu'est-ce qu'on raconte.
C'est un éditeur qui va pas bien déjà.
Non, il va déposer le bilan.
Non, il dépose le bilan. Effectivement, ça a été un petit soldat. Il a toujours cru au roman. Très idéaliste, etc. Mais là, hop, ça y est, ça s'arrête. On n'en veut plus. On veut plus de ses livres. Alors il se dit, mais pourquoi les miens, puisque il y a 10 000 romans qui sortent en France par an.
Les chiffres que vous donnez, les chiffres sont dingues, en tout cas.
Je crois qu'ils sont en deçà de la réalité, mais,
Vous avez dit 10 000? Non, 100 000?
Non, 10 000 romans.
Ah, romans, que des romans.
10 000 romans, ça fait quand même une, lui ne publie que des romans, il s'en explique, bon. Et pourquoi pas les miens, quoi. Il y en a 30 par jour, ça veut dire à peu près, de romans. Wow. Et donc il va chercher cette réponse pendant tout le bouquin. Et
oui, il va aussi chercher des solutions.
Voilà. C'est ça. Et il va aller vers tout ce qu'il s'est refusé de faire en 40 ans. Ouais. C'est-à-dire essayer de s'attirer les bonnes grâces d'un juré du Goncourt ou essayer d'avoir un fond de tiroir d'un best-seller en se disant
ce qui est mignon sur les grâces d'un membre du jury, c'est que c'est le hasard d'une clope pas fumée sur un balcon, c'est une soirée qui traîne, on sait pas qui est qui finalement et j'aime beaucoup le fait que aussi la vie puisse basculer sur des rencontres hasardeuses sans spoiler la chute du livre. Elle est faite de rebondissements justement et pas là où il les attend, là où il va les chercher.
Oui, parce que ça, c'est le romanesque. C'est-à-dire que il y a une partie qui serait celle de son monologue intérieur, celle de son injustice, pourquoi pas moi, etc. Mais s'il y avait que ça, je pense qu'on s'ennuierait assez vite. Enfin, moi, j'ai écrit des polars, à un moment donné, moi-même, je m'ennuierais s'il y avait que son monologue intérieur et que son questionnement. Mais voilà, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait du romanesque, c'est-à-dire que ils sont là les faits irréels.
Mais il s'interdit le romanesque déjà dans sa propre vie.
Oui, enfin non, il n'est pas doué. Hein. Il aurait préféré être
un... Il ne saisit pas les occasions pour créer du romanesque.
Hélas pour lui, ouais. Mais c'est ce qui fait peut-être de lui...
On parle de la jeune femme qui lui dit...
éditeur.
On parle de la jeune femme qui lui dit...
cette chambre, si on allait la visiter.
Voilà.
Ça, c'est une histoire vraie.
Qui vous est arrivé
non,
à
non. Je ne suis pas éditeur.
Mais c'est
un éditeur qui me l'a raconté.
Est-ce qu'on peut donner la chute de cette anecdote dans le livre ou pas? C'est-à-dire
oui, bien sûr, allez-y.
Il va lire plus tard cette même.
Alors, il répond d'abord dans la vraie.
Dans la vraie vie, réalité, il n'y va pas.
C'est pas raisonnable, ce ne serait pas raisonnable.
Il est fidèle.
Voilà, on va dire ça comme ça.
Oui, il est fidèle et puis pas.
Pas très aventureux.
Il ne sait pas saisir les occasions, on va dire. C'est pas son truc non plus.
Mais
pas quelqu'un qui vit. Hein.
Mais cette scène qu'il n'a pas vécue va devenir la scène la plus chaude d'un roman qu'il va lire plus tard.
Voilà.
On lui a volé en
six langues et à je sais pas combien de centaines de milliers d'exemplaires, ce qui fait qu'il assiste à cet après-midi de folie
torride
à laquelle
je crois que le verbe que vous employez, c'est ils vont se dévorer.
C'est des fauves en rut.
C'est
etc.,
ça.
Ouais.
Exactement.
Non, mais ça, de toute façon, les éditeurs vous racontent des histoires insensées, parce qu'il y a beaucoup de désir. C'est-à-dire, il y a du désir. Quand on rentre dans leur bureau, tous les auteurs ou tous ceux qui veulent défendre leur bouquin ont tous écrit le plus beau roman du monde, ou le plus beau livre du monde, et ils sont en train de le défendre. Et eux connaissent bien ce que c'est que le désir. Donc eux-mêmes sont très... font très attention à ça, ils veulent pas vexer, mais en même temps, voilà, il y a une pléthore de gens qui veulent absolument.
Mais globalement, qu'est-ce qu'ils cherchent ? L'argent, la réussite, le marketing ou au contraire une œuvre ? Parce que là aussi, vous dites et vous mettez les deux presque en opposition, en disant que un chef-d'œuvre n'est pas forcément quelque chose qui va se vendre immédiatement, en tout cas.
Ça, je pense que l'histoire de la littérature ne va nous donner beaucoup d'exemples. Non, mais c'est ce pourquoi il est seul dans la nuit. C'est-à-dire que c'est cet idéaliste qui a toujours été exigeant avec, voilà, il n'a pris que 650 titres en 40 ans. Mais là, son exigence, ça a joué contre lui. On n'en veut plus de ses livres. Donc, à partir de ce moment-là, il va se dire, mais je vais faire des coups. Moi aussi, je vais faire un coup. Pourquoi pas? Je vais,
Sauf qu'il ne sait pas lequel.
Et non, il ne sait pas.
C'est cette déambulation qui donne le sujet de votre
roman. Il va essayer de faire la manche auprès d'un mécène. Il va aller dans un cocktail littéraire, ce qu'il n'a jamais fait. Et évidemment, ça va aller de mal en pis, puisque nous sommes dans un roman romanesque.
Et, il part aussi dans la quête de ses propres auteurs, de ceux qu'il a rencontrés, de ceux qui l'ont trahi, de ceux qui peut-être ont signé sous d'autres noms, d'autres pseudos.
De ceux qui seraient prêts à sacrifier aussi.
Il y a des réminiscences. Mais j'ai interviewé beaucoup d'éditeurs qui m'ont raconté plein de trucs.
Alors on va en parler jusqu'à midi et demi, ça s'appelle Tiré de faits réels, c'est signé...
Irréel,
évidemment.
Une chance sur deux.
Dommage, j'ai pas la batterie. Tonino Benacquista est notre invité et votre premier fan, et là c'est monsieur Holden.
Bravo. Mais j'ai un invité exceptionnel aussi, c'est monsieur Danielito Morin, s'il vous plaît, applaudissez. Je suis fan de Tonino Benacquista. On est tous très fans du livre Saga. D'ailleurs, Daniel en part tout le temps en se trémoussant comme ça. Alors, c'est vrai qu'il chante Saga, mais ajoute Africa.
Saga!
Je suis fan de ses livres et de ses films, de ses BD et de son charisme. Daniel Morin était ravi qu'on reçoive Tonino. Il pensait qu'en italien ça veut dire Titono.
Je suis tellement déçu.
Et vous êtes là pour tirer le fait irréel qui parle d'un éditeur qui se prend une gamelle.
Bien fait.
Ça ressemble à l'histoire de l'éditeur de Daniel. Boubou la poule trop cool finit dans les poubelles.
Et là, recherche son public.
Ouais, mais il a pas trouvé apparemment. Je suis fan, mais à cause de vous, Daniel va pas fort. Tonino Benacquista, vous devez avoir des remords. Je vous propose d'organiser une bouffe ambiance pub. Ouais. Et on remonte le Benacquista Social Club.
Wow.
Hola, Daniel.
Hola, Bouboule.
Hey, comment est-ce
bien.
Des patons. Des boulettes, du poulet margarine. T'es muy bueno.
T'es muy bonito, coño.
Mi amor.
Quoi d'autre?
Y a pas de patate, le plat a cramé. Désolé, Tonino, y a du riz.
C'est pas bon pour la digestion.
Non, c'est la toilette après.
Et après?
Attention. Ma mère nous a fait des cannelés. Ça, c'est pour les îles à Enagui.
Aquí, c'est el pequeño.
El pequeño. Ouais, je suis fan de vos livres, c'est certain. Et dire que mon Daniel n'en a même pas lu un. Vous êtes notre invité, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Je tiens à vous présenter mes excuses, nos excuses. Tonino Benacquista, nous ne maîtrisons pas la bête.
Ouais.
Voilà ce que c'est qu'un moment complètement irréel.
Irréel. Et de solitude.
Et pour poursuivre ce moment irréel ou de solitude.
Et pour mieux comprendre pourquoi certains membres de la direction quittent cette maison aussi.
Holdelaf sera sur scène, Opération Bretzel, c'est le 5 avril à Lille, au Sébastopol. Et Daniel Morin aussi est sur scène avec la tournée des humoristes français.
Oui, 23, 24, 25 mai. Et oui, la tournée de l'Ouest.
Bravo.
Et bien, il est aussi un peu en tournée, votre héros, Tonino Benacquista. Il part, il déambule. Et on déambule nous-mêmes aussi d'ailleurs dans son cerveau en partant dans ses méandres. Il y a une sorte aussi de mise en abîme, c'est-à-dire que d'un coup il entend comme une voix qui lui raconte son propre roman, sa propre vie, parce qu'il se pose même la question de savoir s'il ne pourrait pas lui être le héros de ce dernier livre qui sauverait la boîte.
Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, il a un don, 40 ans à servir le roman.
Bertrand Dumas, il s'appelle.
Ouais, voilà. Il a un don, c'est qu'il entend le narrateur omniscient. C'est-à-dire celui qui dit « il », vous oubliez un bouquin, « il », bah, ouais. Flaubert,
« le
il
hein. ». Hein,
et il entend ce « il », c'est-à-dire que c'est un don, quoi. Alors, c'est son Dieu. Dieu lui parle et lui dit « il » et lui parle au, à l'imparfait.
C'est sa voix off, quoi. Qui
donc
lui,
ça lui permet lui... De, quand il est complètement
de quoi,
déstabilisé...
De prendre du recul, par, d'avoir un
voilà,
peu de
exactement.
Distance.
Quand il est complètement déstabilisé par un événement, une situation, comme il va y en avoir beaucoup dans ce bouquin, eh ben, il a recours au narrateur omniscient qui lui... c'est comme s'il avait raconté par avance oui. ce qui va lui arriver. Quoi.
En plus, vous le mettez dans une situation d'urgence. C'est-à-dire qu'il n'a que peu oui. de temps. Ah, mais... il est contre, c'est un, bah,
le
un contre-la-montre.
C'est le lendemain qu'il doit aller au tribunal de commerce.
Bah, là, c'est le romanesque. C'est-à-dire, ouais. voilà, ça y est, c'est fini. Et puis, il me reste une nuit. Et l'éditeur seul dans la nuit qui cherche une solution, etc. Je me suis dit, tiens, voilà, ouais. ça c'est... Il y a quelque chose de...
Elle est partie de quoi, cette idée?
Je pense qu'il y a...
Parce qu'il y a beaucoup de réel. Et d'ailleurs, là où vous nous troublez, oui. pardon, c'est que vous glissez de véritables noms d'auteurs au milieu...
Des classiques.
Grand classique,
oui, mais oui au milieu d'auteurs que vous avez vous-même créés dans précédents romans.
Oui,
c'est,
bah, oui, bravo.
Vous les faites, bravo. Vous les faites revivre. Et donc, on sait plus d'ailleurs ce qui est réel et irréel dans votre histoire.
Oui, parce que je pense qu'il fallait pas du tout écrire ce bouquin de manière justement réaliste, etc. Il fallait qu'on parte très vite dans une sorte de fantasmagorie, d'extravagance. La première chose qu'il fait, c'est aller voir un mécène qui ne sort jamais d'un jardin.
C'est ça.
Mais qui est donc, génial, ce mécène.
C'est pas oui.
Il est génial parce que ça vous donne l'occasion de faire de belles pages aussi sur la littérature, l'ambition de la littérature.
Du livre. Est-ce qu'on a besoin de livres encore?
Est-ce que l'homme en tire quelque chose véritablement? Parce que c'est aussi un discours hyper admis que la littérature permet de traverser. C'est intéressant de questionner ça et de dire tout d'un coup, bah. Peut-être que pas du tout, que l'homme n'apprend rien, que l'homme en fait...
Ah oui, moi c'est un peu mon
hypothèse, votre avis. Mais c'est pas l'hypothèse qu'on défend le plus souvent, c'est
non, ça
qui
non, mais justement, il y a un contradicteur en face, parce qu'on peut considérer ce monologue du type qui est quand même... qui nous prévoit une apocalypse dans pas très longtemps, on va le considérer comme totalement délirant. Mm. Et si on le lit avec précision, on se dit « Ah !»
Ouais.
Ah ouais, quand même. Ça, c'est quand même son argumentaire a quelque chose d'assez séduisant.
Ouais, moi, j'ai jamais ces pages-là.
C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire la vie c'est ci, la vie c'est ça. Ouais. Non, c'est en aucun cas ça, le roman. Le roman, c'est de confronter des situations à des personnages et des situations où eux-mêmes vont se prendre les pieds dans le tapis. Et le lecteur qui nous nourrit. Oui, mais seul le lecteur, c'est le lecteur à titre individuel, fait son parcours en même temps que cet éditeur. Et moi, non seulement je ne juge pas mes personnages, mais je n'ai pas de thèse à défendre. Il faut mettre en présence tout un tas de phénomènes qui font qu'à un moment donné, le lecteur, lui, avance tout seul.
Et on voit aussi ce personnage en tant que lecteur, parce que ce qui est intéressant, c'est que par exemple, quand il s'attaque à Madame Bovary, ce qui est hyper intéressant, paragraphe assez court, où finalement, il nous raconte son point de vue sur ce roman, selon son âge. Et je trouve ça aussi intéressant de se dire qu'une œuvre, elle n'est pas simplement entrée dans une vie à un moment donné, et qu'ensuite, elle continue d'évoluer.
Et que ça dépend de l'âge que l'on a au moment de la lecture.
C'est ça, on n'a pas la même âge.
C'est-à-dire le lire à 17 ans et le lire à 60, évidemment, on va avoir deux lectures complètement différentes.
Et on récupère Charles Bovary, ça m'a fait très plaisir.
Oui.
Parce qu'il est quand même, c'est un des personnages les plus malmenés de la littérature.
Oui, il est extrêmement romantique.
Il est
amoureux jusqu'au bout et par-delà la mort.
Et il passe pour un idiot.
Mais oui, le paragraphe se conclut par... Bon, alors j'ai beau dire tout ce que je veux dire, de gentil ou de pas gentil sur Madame Bovary, moi quand je serai mort, je serai redevenu poussière, elle aura
survivre.
Tout l'avenir devant elle.
Ouais. C'est la force du personnage.
Il y a cette urgence aussi, pardon, de trouver de l'argent. C'est-à-dire qu'on est avec des idées, de grandes idées, et de l'utilité de la littérature ou des écrits dans notre société, et dans la manière dont on peut se nourrir, progresser... peut-être devenir légèrement plus intelligent, mais la réalité du terrain, c'est l'argent. Il faut faire des ventes,
bien sûr.
Il faut se sortir du tribunal de commerce, il faut faire des coups, et il faut aller vers peut-être ce que l'on déteste le plus pour faire des coups. C'est-à-dire qu'il est, il se demande à quel point il va se prostituer pour faire de l'argent.
Il est tout à fait... prêt à le faire. En cette dernière nuit de désespoir, il est prêt à tout. Et évidemment, tout ça va pas très bien se passer. Mais oui, c'est une réalité, c'est une réalité commerciale. Hein. Ce ne sont pas forcément des philanthropes non plus, les éditeurs.
Les éditeurs.
Il faut, effectivement, c'est un art et une industrie. Alors après, dans quelle proportion c'est une industrie et dans quelle proportion ça reste un art, on va le dire.
On continue à parler jusqu'à 12h30, tiré de faits irréels chez Gallimard, signé par notre invité Tonino Benacquista. Mais le roman n'aurait pas été le même s'il avait été signé Lisa Delmoitier. Et voilà Lisa. Vous n'auriez pas écrit comme ça, vous?
Déjà je le trouve un peu facile, ce titre de livre tiré de faits réels. Mais enfin, si ça passe, je voudrais préciser que mes chroniques de ces trois dernières années, y compris, je cite, mon tuto démembrement ou encore plug anal ou attache remorque, sont aussi tirées de faits réels.
Oh non !
Ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite.
Ça marche bien.
Quand j'écris comme titre de chronique, je suis trop poilu. Le jeu vise à créer un sentiment de proximité. Oui. Il ne raconte rien de ma réelle pilosité. De la même manière que ma carte de fidélité au magasin cire dépilatoire pour grossiste n'est en rien indicateur de l'état de mes jambes à la sortie de l'hiver. Et votre livre, Tonino, s'intitule donc « Tiré de faits réels ». En même temps, quand t'es un écrivain qui écrit sur le milieu de l'édition en dressant le portrait pas toujours flatteur de différents auteurs, t'as intérêt à dire que tout était inventé. Hein ? Autant vous dire que le jour où je publie un livre sur une émission de radio fictive s'appelant « Le groupe qui dénote avec dans l'équipe un ménestrel, un certain Aldeloff, une reine de la culture, la fameuse Laleille, et un animateur de taille modeste, le célèbre Nigu. Oula. Qui dérape si tu comprends l'anglais. Oh ouais. Bien joué donc Tonino, bien vu. Et cette histoire tirée de faits réels, on l'a dit, c'est celle d'un éditeur de livres qui fait faillite. Bon. En même temps, un éditeur de livres papier qui fait faillite, c'est comme un aveugle qui crache sa voiture, quoi. C'est triste, mais qui est surpris, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de tendresse pour son amour du roman, mais c'est ce qu'on t'apprend le premier jour en école de commerce. Si tu veux éviter la banqueroute en 2025, deux secteurs à éviter. Oui. La vente de livres et le prêt de matériel pour chasser le mammouth. Bon concept, mais mauvais timing, vraiment. À votre éditeur, il lui reste une nuit pour sauver son activité, et lui qui a tant donné au romanesque espère que le romanesque lui vienne en aide. Mais est-ce que ton art te rend ce que tu lui as donné? Non. Moi, je passe ma journée à écrire des blagues, c'est pas pour ça que ma vie est drôle. Hein. Au quotidien, c'est quand même beaucoup de temps à écouter la musique d'attente de l'URSSAF. Très peu de gens qui glissent sur des pots de banane. Hein. Et dans cette attente de ce miracle se pose la question de l'intérêt du roman, hein, de l'utilité de la fiction dans nos vies contemporaines. C'est une vraie question. Moi, j'aime la fiction pour cette capacité qu'elle a toujours eue d'être plus folle que le réel. Mais en 2025, le réel, c'est assez, non? Enfin, avant, je disais Le Seigneur des Anneaux parce que le réel était chiant. Mais maintenant, pour m'évader, je cherche des livres sur une femme qui épluche des pommes de terre sur 300 pages. Ça change des idées. Franchement, sérieux, entre Trump qui fait de la pub pour Tesla devant la Maison Blanche et Hanouna qui va peut-être devoir appeler Macron beau papa. Oh là, Dieu, du calme sur la coke avec tes co-auteurs, là. On n'y croit plus à ton histoire, mon gars. T'es crève-crève et tout, quoi. C'est paradoxal parce que la fiction permet de s'évader de la dure réalité, mais les gens adorent les histoires tirées de faits réels. Ouais. Pourquoi? Quand tu vois la gueule du réel, inspirée de faits réels, je vois pas en quoi c'est gage de qualité, quoi. Quand je vais au resto, le chef me dit pas « Alors pour ce plat, je me suis inspiré d'un énorme tas de vomi. Ah, super !» Du calme sur le réel, vive la fiction. Et quand je dis que Dieu tape de la coke avec Rebecca, c'est inspiré de faits irréels.
Merci. Lisa Delmoitier.
Alors, on ne dirait pas comme ça, mais c'est une belle personne.
Pilosité.
C'est une belle personne.
Vous rajoutez 2-3 virgules, 1 ou 2 adjectifs, et à mon avis, vous trouvez un éditeur.
On ne sait pas si c'est gentil ou pas.
À quelques virgules près.
En tout cas, elle sera sur scène à Bruxelles le 9 avril pour une soirée en faveur de Lilo et des femmes sans abri.
Bravo Lisa.
Tonino Benacquista, justement, vous évoquez aussi la fragilité de ce métier, de ce milieu de l'édition, et le Graal serait d'être adapté à la télé, au cinéma.
Ah, c'est le Graal pour les auteurs, ouais.
Oui.
Ah oui, oui, oui. Alors, je pense que
pour les éditeurs aussi, non? J'imagine.
Oui, aussi, parce que ça
ils doivent croquer.
Ça génère des traductions.
Et des ventes de livres.
Des ventes de livres. Et puis même le lecteur, évidemment, il y a quelque chose de très naturel à se dire, à voir l'affiche du film sur la couverture et dire, ah oui, j'ai vu le film. Mais en général.
Ça, vous l'avez vécu?
Donc
vous savez exactement le poids et l'importance entre ce rapport entre le romancier et le scénariste.
Ah, mais ça donne un statut. La différence entre les deux boulots, évidemment, l'un est le contraire de l'autre, hein, le boulot de scénariste. Et le travail d'auteur de roman, là, je peux rester à peu près 2 heures là-dessus, donc on va pas, je vais pas m'y mettre.
Pour vous, ce sont deux personnes en une?
Là, si vous parlez du travail du scénariste...
Deux métiers qui n'ont rien à voir.
Ah oui, ça n'a rien à voir, parce que le scénariste, le scénario n'est pas destiné à être lu. Il ne doit pas y avoir de style dans un scénario. C'est descriptif, c'est précis, et on écrit un outil de travail.
Dans les dialogues,
Oui, dans les dialogues, absolument. Vous avez raison, et là, il peut y avoir effectivement du style.
Un peu de style.
On vous en demande plus, hein, maintenant, le dialogue à la Michel Audiard ou à la Janson, ça... Bon, mais c'est un outil de travail dont vont s'emparer 100 personnes derrière. Le chef-op doit savoir exactement quelle lumière il doit faire. Voilà, tout doit être dans cette bible qu'est le scénario. Et c'est un outil de travail. La littérature, ça serait exactement le contraire. Hein. C'est on s'adresse à une seule personne et on devient
le réalisateur de notre
ça,
film.
Ça, c'est autre chose. Ça, c'est ce pourquoi le lecteur vous dit toujours, à peu près à 95% du temps, j'ai préféré le bouquin. C'est la phrase du lecteur. Et c'est normal, puisque...
On fait son casting, on choisit sa voix, son décor, sa lumière.
Voilà, ouais. C'est ça. Et puis rien ne peut rivaliser avec votre film. Celui que vous êtes fait pendant la lecture. Il n'y a pas un Spielberg qui fera mieux. C'est pas possible.
Ça dépend si on a commencé par lire le livre ou voir le film. Parce que c'est très différent quand même. Une fois qu'on a l'image du film et qu'ensuite on va vers le roman, on peut avoir une certaine déconvenue.
Ah, oui. Mais moi, ça me passionne. Hein. Moi, je peux rester très longtemps là-dessus. C'est-à-dire la différence entre le bouquin et le film. Et là, je peux en citer plein.
Je ne vous pose pas la question pour Monte Cristo.
Monte Cristo, ne me posez pas la question.
Mais moi, je trouve que c'est génial de poser la question, en fait.
Non, mais il y a eu plein d'adaptations de Monte Cristo.
Je parle de la dernière.
J'avais compris. Bon, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup le début du roman. C'est-à-dire, est-ce qu'il est bonapartiste, etc. Je comprends très bien qu'on n'ait pas besoin de toute cette backstory, comme disent les scénaristes.
Les Anglais.
Mais même, alors après, tout ce qui est passage dans le château d'If et tout, la découverte du trésor, tout ça est assez spectaculaire,
Quand vous dites tirer de faits irréels comme titre, parce que le choix du titre aussi, c'est du marketing, c'est l'accroche dans tous les sens du terme. Le jeu de mots sur irréel, c'est qu'en fait on est dans une réalité un peu plus concrète pour ce pauvre éditeur qui voit sa fin approcher. Et ce qui devient irréel, c'est pas naïf, c'est-à-dire que sa réalité devient totalement dingue.
Totalement dingue, oui. Ça, c'est le romanesque. Hein. Il a convoqué le romanesque et le romanesque va effectivement intervenir dans cette nuit-là. Mais tiré de faits irréels...
C'est jeu de mots pour dire que c'est incroyable, c'est un jeu de mots pour dire que c'est inadmissible, c'est un jeu de mots pour dire quoi?
Je pense que c'est tout simplement ce que les faits irréels, alors ce sera en l'occurrence la fiction, c'est ce que la fiction a à nous dire du monde, tiré de faits irréels. C'est ce que nous dit le roman que ne dira pas l'essai, ni l'enquête, il n'y a que le roman... Et la fiction qui est capable de parler du monde qui est le nôtre, comme il le fait.
C'est la dimension magique du roman d'ailleurs, qui peut être un roman qu'on pourrait lire en se disant mais c'est un futur un peu fou dans lequel on nous projette, et en fait quelques années après quand on lit on se rend bien compte que c'est le réel et que c'est plus fort que le réel.
Le roman est là pour dire et si.
Et oui.
Le roman n'est pas là pour dire alors l'état des lieux c'est si, c'est ça, tant d'exemplaires, tant de ceci avec une thèse ou une... Bon.
Il est là pour dire et si.
Ouais. C'est-à-dire que le roman de science-fiction des années 50, notamment aux États-Unis, mais en France aussi, disait et si la machine prenait le pas sur l'humain. Bon, c'est 2001 Odyssée de l'espace, c'est exactement cette question-là qui est dans 2001 Odyssée de l'espace. Et donc il y avait tout ce qui a été robot, etc. Et Bon, 70 ans plus tard, le monde entier se réunit pour savoir si cette machine, cette intelligence artificielle va, etc. Alors que les auteurs de SF avaient déjà, mais tout dit
non, mais
sur la question.
Le SF fonctionne pour la science-fiction essentiellement.
Oui.
C'est George Orwell, c'est Jules Verne, c'est l'imaginaire.
Oui.
Mais dans votre roman, c'est la réalité, justement, qui vient.
Oui, mais avec des projections, c'est-à-dire que.
Mais c'est pas de la science-fiction.
Non, c'est pas du tout de la science-fiction. C'est une projection, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se poser les questions, on se dit, et si la littérature n'avait plus rien à dire. Et si, ce que je ne partage pas, mais en tout cas, il se pose la question, et si toutes les formes d'expression créative étaient épuisées? tu vois, le cinéma, la musique.
Ouais, moi je trouve que ça pose aussi beaucoup de questions sur notre société et plus loin et en haut. Avec un pas de recul, pas que le monde de l'édition.
Oui.
C'est-à-dire qu'on peut dévorer votre roman extrêmement bien écrit, parce qu'on parle beaucoup du fond et pas tellement de la forme, mais surtout en y voyant la manière dont nos valeurs dégringolent un tout petit peu,
peut-être.
Dont l'importance dans la société des uns et des autres est très relative
peut-être.
Aussi. Il y a aussi un clin d'œil sur les influenceurs, les youtubeurs, les streamers, je sais pas comment vous les appelez, en tout cas ceux qui écrivent plus avec des emojis qu'avec des mots. Tout ça est un regard aussi sur notre société, et pas uniquement sur le monde de l'édition qui pourrait passer pour quelque chose d'un peu excluant pour ceux qui ne connaissent pas.
Non, mais ce qui me fait plaisir, c'est que c'est votre ressenti. Je pense avoir mis tout ça dans ce roman, mais c'est votre ressenti en tant que lecteur, et c'est ça que moi je cherche.
Alors que c'est vrai, Leïla, toi t'es plus allée dans le ressenti du monde de l'édition, de la littérature et des références.
Ben moi j'aime bien le parti pris de dire que la littérature ne nous apprend rien, que finalement la littérature n'est rien si on n'en parle pas, parce que c'est ça aussi, hein, il faut qu'il y ait une conversation, la conversation que vous créez aussi avec vos interlocuteurs fait que ben, le livre redevient vivant. C'est bien d'avoir lu des classiques, mais si c'est pour les avoir lus pour soi, à quoi bon? Je trouve qu'il y a, vous citez Borges,
la jalousie aussi, quand il est jaloux de voir sa femme en train
qui
de
lire un autre auteur,
ben oui,
et vous citez Borges par exemple, et je trouve que voilà, on a aussi des penseurs sur la littérature, et je trouve que penser sur la littérature, c'est quand même amener un surplus, quelque chose de voilà, qui est important.
Surtout quand on dit que Borges est un auteur exigeant, abscon, etc. Ce qui, pour moi, n'est pas le cas, parce que j'en parle de manière à le partager pour ceux qui auraient des angoisses en lisant le nom Borges. Ouais. Alors que ce sont des exploits de la pensée. Hein, à chaque fois, ce sont des exploits. Mais absolument accessible. Quoi. Ouais. Et si tous les bouquins étaient déjà écrits,
c'est ça. Avec la bibliothèque de Babel, c'est ça. On aurait pu citer Mengele, on aurait pu citer aussi d'autres auteurs qui parlent de la littérature.
On aurait pu, mais on le fera pas.
Mais non, mais c'est super, parce que ça te donne aussi quelques petites billes pour aller au-delà du roman.
Tiré de faits réels, je vais y arriver, aux éditions Gallimard, signé Tonino Benacquista. Elle, malheureusement, elle est réelle. Voici Rebecca Balestra, jusqu'à l'envoyer tout à l'heure.
Bravo, Rebecca.
Alors, comme le fait si bien Tom Baldetti pendant ses chroniques, aujourd'hui, je voudrais m'adresser à ma grand-mère. Malheureusement, ma grand-mère n'écoute pas France Inter parce qu'elle est morte.
Elle pourrait.
Oui, elle nous a quittés, mais elle est toujours avec nous.
Bien sûr.
Parce qu'elle est là. Dans sa petite urne.
Ah non.
Regarde, mamie. Toi qui as toujours rêvé de venir à Paris, on est à la maison de la radio. Tu te rends compte? Ah, mais tu vois rien, là, attends.
Oh non.
Ah là là.
Ah oui.
T'as vu, mamie? C'est Nagui de la télé, tu le regardais à l'EHPAD. N'oubliez pas les paroles. Bon, avec ta neurodégénérescence, t'arrivais déjà pas à retenir tes éjections, alors les paroles. Oh, mais qu'est-ce que t'attends pour lui demander un autographe à Nagui? Allez, va l'embrasser.
Non.
Souffle sur les cendres.
Nom de Dieu, sa bague en acre, on l'a cherchée partout, ça vaut des fortunes. Ah mais non, je suis sotte, c'est pas sa bague, c'est sa molaire. Tiens, Lisa, mets ça sous ton oreiller, demande un sou à la petite souris. Ça t'offrira une jolie nuitée dans une auberge de jeunesse. Tu pourras même prendre une douche chaude et changer de guenille.
Ah, oh non.
Ah bah, il reste un bout de clavicule. Ça porte bonheur. On fait un vœu, Julie? Allez, du talent pour Julie Conti. Oh, il s'agit évidemment pas des cendres de ma grand-mère. Je suis pas aussi infâme. Non, c'est le contenu du sac de l'aspirateur de Radio France. Comme ça, on rencontre un peu les acariens et les collègues. Ça mélange les étages. J'en profite quand même pour remercier chaleureusement le personnel d'entretien qui a fait un boulot dingue après chacune de mes chroniques. Enfin, ce sera toujours moins que de ramasser les poils de barbe de vos humoristes salafistes. Hein. Regardez ça. Daniel, pose ça sur ta tête, plus que 150 000 et t'auras enfin la collection complète. C'est fou, il s'agit que des détritus des employés de Radio France et donc essentiellement des cendriers de Daniel. Mais ça met quand même un vertige de savoir qu'on, vous l'avez dit, qu'on est poussière et qu'on redeviendra
poussière.
Ah, c'est beau la Bible, hein, ça vous change des pulls de Julien Santini. Quoi qu'on fasse de notre passage sur la Terre et sur Inter, tout est amené à disparaître. Même notre bande originale.
Ouais. C'est sûr.
Alors quoi, comme dirait Jane Birkin.
Quoi? Notre humour fou ne resterait que des cendres.
Bien.
Quand la BO aura déroulé sa bande.
Incroyable.
Quand notre antenne, il nous faudra la rendre quand on sera sous les plates-bandes. Da.
Non.
N'y ressemblera à son cendrier. Na. Qui aura sa pyramide à Montmartre. Ah. Avec lui l'architecte qu'on aura plâtré. Qu'on retrouve jamais l'entrée. Son mausolée. On aimerait bien que la vie, elle soit éternelle. La vie où le rouleau de PQ d'A, il faudra le remplacer. Il n'y en avait plus. Pensez-y, pensez-y. Moi, j'ai dû me torcher à l'aide de mes doigts.
Alors oui, la bande originale. Notre humour fou ne restera que des cendres. Alors avant de mordre la poussière, je profite à fond de cet instant présent. Parce que c'est super d'être vivante avec vous.
Oh, c'est cool. Tonino, vous voulez dire ?
Oui, non, non, je veux dire, il y a cette anecdote que raconte Cliff Richard, où il dit qu'il a fumé. Il a fumé les cendres de son père.
C'est vrai, c'est vrai.
On a l'impression que c'est ce que vous avez fait un peu là, vous avez fumé un peu le truc comme
ça. Elle a fumé depuis longtemps.
Elle fume tous les jours.
Mais le côté. Et vous y croyez ou c'est le côté rock'n'roll de dire j'ai fumé les cendres de mon père ?
C'est la provocation. Tout ce que disent Keith Richards et Mick Jagger, c'est un peu. C'est comme mes parents qui ne sont plus là. Je crois à tout ce qu'ils disent. Voilà.
Oui, moi pareil. Pareil. Quand il fait
Waiting for My Man à 80 ans, je me dis tant qu'il sera là, nous serons des éternels adolescents.
On est d'accord.
Et puis au fond, la vérité.
Hein. Peu importe.
Alors justement, tiens, à propos de cette vérité, il y a quand même quelques faits réels dans ce livre. Vous dites que vous avez fait une enquête, mais en tout cas des échanges, des entretiens. Quelques dîners en ville avec des éditeurs pour avoir leur point de vue sur le monde de l'édition.
Puis vous êtes auteur, donc vous avez été confronté à des éditeurs.
Là, cette année, ça fait 40 ans que je publie des romans. Et donc j'en ai vu. J'en ai vu beaucoup. J'en ai vu des très bons, quelques-uns. J'en ai vu des moins bons.
C'est quoi un très bon éditeur qui vous édite ?
Ah, c'est quelqu'un qui, justement sur du papier cul, serait capable de repérer un texte magnifique. Il n'a pas besoin du nom de l'auteur, il n'a pas besoin de rien, il n'a pas besoin de savoir « Ah ben attends, je te recommande le truc » et tout. Non, non. Moi, j'ai vu des éditeurs dire « Là, il y a quelque chose.
Ouais.
Là, il se passe
ça,
quelque chose. »
Ça, c'est l'éditeur où il y a des personnes, des têtes chercheuses dans
Il y en a. Moi, j'en ai
Vous en parlez dans le roman, justement.
Oui, bien sûr. Oui. Un qui existe, d'ailleurs, bel et bien. Et qui, il revient avec un manuscrit, il dit « Ah là, là, j'ai dégoté ce truc-là ». Et il ne disait pas, c'était aux Presses de la Cité à l'époque, il disait pas comment, où, etc. Mais à chaque fois, c'était des ovnis, quoi. C'était des trucs... Bon.
Et surtout, il se retrouve à lire des tonnes de manuscrits qui ne sont pas des livres, c'est-à-dire qu'il est aussi en souffrance avec la lecture. On le plaint, cet éditeur, de dire qu'est-ce que vous avez comme nombre de manuscrits à lire qui ne sont même pas des livres. La phrase aussi, elle est assez violente, elle est dite dans...
Je pense que c'est 99% de tout ce qu'il lit, c'est-à-dire des manuscrits qui vont être refusés. Et il y en a de plus en plus, hein. Voilà.
Et tout ce qui est publié n'est pas non plus formidable.
Moi, en tant qu'auteur, c'est pour ça que le job de l'éditeur est là pour dire ça oui, ça non. Moi, en tant qu'auteur, je vais dire bon, voilà, j'aime ci, j'aime pas ça. Ça va être de l'opinion. On va tous avoir des opinions. Lui, l'éditeur, c'est plus que de l'opinion. Et c'est quelqu'un qui mise sur un texte.
C'est ça, et qui prend un risque.
Et
quand on est auteur, est-ce qu'on se voit ensuite refuser des manuscrits ?
Parce que vous parlez de Pessoa, par exemple, qui écrit sous des noms différents. Est-ce que l'audace suprême, le panache suprême de l'auteur, ça ne serait pas d'avoir déjà rencontré le succès et ensuite de continuer à écrire, mais en changeant simplement son nom, justement, comme vous l'expliquiez, que le bon éditeur, c'est celui qui, même sur une feuille de papier toilette, peut déceler qu'il y a littérature.
Ça a dû arriver, non ?
Oui.
Je sais pas si les auteurs en général se risquent à ça.
Non, mais ce qui est arrivé.
Non, mais c'est pas pareil.
Oui, mais c'est l'exception.
Ce qui est arrivé, il y a pas si longtemps, c'est, l'expérience était, a consisté à envoyer des classiques. Oui. À des éditeurs qui les ont tous refusés aujourd'hui.
Mais vous, ça pourrait faire partie du, je sais pas, d'une aventure d'écrire un texte et de l'envoyer sans votre nom.
C'est mon rêve.
Oui.
C'est mon rêve.
C'est ce qu'a fait Philippe Labro, pardon, quand il avait écrit, il y avait Cornichon au chocolat, je crois. Non, c'est pas ça le titre. Il s'était fait passer pour une jeune fille
de 13 ans.
De 13 ans. Oui. Il a été publié sans qu'on sache que ce soit Philippe Labro qui l'ait fait.
Oui, bien sûr. Ah, oui, il y a plein de. Il y a plein de cas. Alors
mais c'est risqué.
Oui. Sébastien Japrisot, qui est le...
Un long dimanche de fiançailles.
Oui, voilà. Sébastien Japrisot, c'est l'anagramme de Jean-Baptiste Rossi. Mm. Il a écrit 1-2 bouquins en tant que Jean-Baptiste Rossi qui n'ont pas eu énormément de succès.
Et En tant que
Sébastien Japrisot, il écrit un polar qui est un carton. Et là, son éditeur lui dit, non, Jean-Baptiste Rossi, fini.
Ouais.
Attends, désormais, maintenant, tu seras Sébastien Japrisot.
Dites-nous la vérité, vous l'avez fait ?
Ah non, mais j'en rêve, mais je crois que mon éditeur serait pas d'accord.
Justement, faut pas demander à l'éditeur, puisqu'il ne saura pas que c'est vous. Ouais. Il faut pas demander, vous avez pas besoin de la validation de qui que ce soit pour tenter ça.
En plus, vous pouvez avoir un contrat encore plus intéressant.
On sent qu'il y a un petit truc qui est en train de naître.
Il faut être ça.
Non, parce que le risque que vous prenez, éventuellement, c'est que votre manuscrit soit refusé.
Oui.
Ouais, mais on ne saura pas que c'est vous.
Et ça, c'est très douloureux. Non,
je vais le faire.
Ok.
Moi, je me disais, tiens, je reste à la maison. Mais sous un autre nom, etc. Et c'est, effectivement, ça n'a aucune chance de marcher. Mmh. À un moment donné, ça fuit, c'est obligatoire. Bravo.
On va parler du métier.
J'ai rien dû dire il y a longtemps.
Je vais le faire.
Il faut. Le métier.
J'ai quitté Gallimard, ça sera de votre faute.
Vous continuez à écrire pour Gallimard sous Tonino Benacquista et vous allez chercher notre maison d'édition.
Écoutez,
sous un autre nom.
Je vais le faire. Un bon polar bien nerveux,
bien vénère.
Bien trash.
Tout ce que vous pouvez pas vous autoriser à écrire, peut-être.
Il accepte tout. À mon éditeur, j'ai cette chance, il est.
On parlait de Keith Richards et des Rolling Stones, justement. C'est le premier titre que vous avez choisi pour évoquer votre bande originale, Tonino Benacquista. On est au début des années 70. Brown sugar, c'est de la drogue, soyons clairs, c'est pas du tout du sucre roux.
Non, tout ce qu'il y a là, sur ce tas là-bas, là, à côté de l'urne,
Début des années 70, on va parler, Tonino, de votre découverte de la lecture. Mmh. La lecture, elle arrive à vous comment ? À l'école, à la maison ?
Elle arrive difficilement, elle arrive comme une épreuve. Et en fait, je suis un lecteur très très tardif. Mmh. J'ai aimé la lecture très tard et longtemps après avoir écrit.
Et quel est le livre qui vous a fait aimer, qui vous a fait un peu dire, tiens, il y a peut-être un truc intéressant qui se passe par là ?
Si je devais séparer fond et forme, je dirais que pour le fond, c'est Chronique martienne de Bradbury. Là, ma vie a changé. Le lisez aujourd'hui, c'est des courtes nouvelles, mais absolument toute notre actualité est déjà là. Et pour la langue, Cyrano de Bergerac. Là, ça a été un éblouissement. Je me suis dit, c'est ça, en fait, là. C'est peut-être que l'idée du style, peut-être ça. Voilà.
Et les classiques, la rencontre avec les classiques, ceux qu'on enseigne à l'école. Justement, vous en parlez. Oui, c'est un classique, mais moi je pense plutôt à des œuvres un peu fleuves qui font un peu peur.
Oui.
Parce que Cyrano, c'est un classique certes, mais c'est difficile de ne pas éprouver du plaisir en lisant Cyrano en réalité.
C'était une découverte personnelle d'ailleurs, il n'était pas du tout imposé à l'école. Non, moi j'ai eu un souci parce que j'ai considéré que les romans classiques étaient des citadelles.
Oui.
Des citadelles imprenables pour moi. C'est-à-dire qu'effectivement,
Goriot.
Oui, d'origine italienne, ça parle italien à la maison, frères et sœurs, etc. Et puis aller vers Notre-Dame de Paris, c'était vraiment un monument. Ouais. Et j'osais pas rentrer dans ce monument. Il y avait quelque chose qui était inhibant. Et une fois je l'ai fait, mais alors avec beaucoup de travail, c'était pas facile, quoi, parce que la lecture, il y avait pas de lecture chez moi, il y avait pas de livre, il y avait pas. Bon, mais ça a été une vie de Maupassant. Où là, je voulais en découdre. Je me suis dit, voilà, quand j'aurais lu ce roman, je l'aurais possédé. Et d'une certaine manière, ça sera mon sauf-conduit après pour, voilà, me errer dans dans le monde littéraire et avoir toutes ces joies. Mais le premier, effectivement, mais ça a été une lutte, hein, Maupassant. Maintenant, c'est un auteur que je vénère, ouais.
1998, justement, l'Italien dans vos oreilles.
Ah oui.
Qu'est-ce que c'est bon ça?
Ah, c'est le sol, c'est le sol. Ti lega questi
luoghi. Avec Celentano.
Celentano, oui, bien sûr, mais.
Paolo Conte. Via Con Me, première bande dessinée, Leïla.
Il y a une bande dessinée que j'adore, que je ne vous avais pas attribuée d'ailleurs, c'est L'Outre-Mangeur.
Ah oui.
C'est votre première BD aux éditions Casterman. Les dessins sont signés Jacques Ferrandez. Là, c'est pas une enquête policière à proprement parler, puisqu'on sait déjà, mais c'est un individu un peu particulier que vous mettez en scène.
Oui,
ça
oui,
vous
c'est
vient
un...
d'où cette histoire? Racontez peut-être en quelques mots le...
Non, c'était juste l'idée de départ, c'était... Bon, il y a le personnage de l'alcoolique qui a des lettres de noblesse, qui est un personnage romanesque. Alors le flic alcoolique, alors là, c'est dans tous les polars de la série noire que j'ai lu, le flic est alcoolique, hein, les Marlowe, les...
Toujours.
Bon, Sam Spade, etc. Ils sont bons. Et puis tous ces auteurs que j'ai vénérés, voilà, les Faulkner, etc. L'écrivain alcoolique, le flic. Bon, mais je me suis dit quelle injustice pour l'obèse, tout simplement, parce que c'est la même pathologie.
C'est vrai.
Sauf que l'obèse n'a pas de héros. Il n'y a pas.
C'est moins chic.
C'est tout. Mais alors, voilà. Et là, on le décrit avec le dessin de Ferrandez. Au lieu de voir le type passer devant un bar et commencer à transpirer, non, je n'irai pas commander ce premier verre. Bah lui, il passe devant une pâtisserie ou devant une charcuterie et il devient fou. et moi, les AO existent.
Oui.
Les OA, les Overeater Anonymous, oui, créé aux États-Unis, et qui est l'exact équivalent des alcooliques anonymes. Donc c'est cette pathologie là que voilà, et cette BD a rencontré un succès fou.
Ouais.
Pourquoi? Parce que c'était, je voyais des gens qui venaient en dédicace me dire, mais c'est la première fois qu'on parle de nous. Et on voit la détresse de cet homme qui est assis devant un frigo la nuit, et puis voilà, il vient de se taper une choucroute parce qu'il a craqué, comme s'il avait ouvert une bouteille de whisky. Et ça c'était vraiment, voilà, les gens ont beaucoup aimé, enfin ça.
Et c'est Cantona qui l'a incarné au cinéma.
Oui, voilà.
Je me souviens de l'adaptation.
Avec des morphings et des prothèses.
Oui,
et dans les bandes dessinées, il y a eu Lucky Luke aussi, que vous avez co-signé avec Daniel Pennac. En 2002, vous écoutiez Alain Bachung.
Ma petite entreprise connaît pas la crise.
Oui.
Épanoui et l'exil.
Oui, c'est sa petite entreprise, ouais.
Oh, magnifique. Mais c'est à cette époque-là, je travaillais avec Jacques Audiard et je me souviens qu'il venait de faire le clip de La Nuit Je Mens. Et il avait eu une victoire de la musique. Etc. C'était pendant qu'on travaillait ensemble et c'était assez Bachung l'ambiance, ouais.
Et c'est le César du meilleur scénario pour Sur mes lèvres, donc. Le film a aussi remporté le César de la meilleure actrice du meilleur son. Vous étiez face à Amélie Poulain quand même.
Ah, c'était
ça le
truc.
Rappeler qu'on est dans une année un petit peu.
C'était ça le truc. C'est-à-dire que moi j'y suis allé vraiment, mais totalement détendu.
Bah oui.
Alors là, j'étais pas du tout angoissé en disant ah là là. Non, c'était Amélie, c'était le carton, c'était dit. Je sais plus, il a toutes les nominations. Et puis le scénario d'Amélie est très très beau.
Oui,
hein.
C'est
danse.
Vrai.
C'est un culte maintenant.
Sauf que votre scénario aussi est très très beau, c'est d'imaginer personnage.
Je me suis dit, c'est Amélie Poulain, terminé. Donc j'y suis allé comme ça pour passer la soirée avec des gens, avec des costumes et tout. Et hop, j'entends mon nom et on monte sur scène avec Audiard. Et je dis n'importe quoi, puisque je sais même plus ce que j'ai dit, mais à peu près n'importe quoi. Et parce que ça pouvait pas être moi. Je suis redescendu avec cette statuette. Mais maintenant, on est très très copains avec Guillaume Laurent, qui est le scénariste d'Amélie Poulain, et il m'en a jamais voulu.
Et vous êtes descendu de scène avec un César dans les mains.
Oui.
Et votre père s'appelle César.
Ah oui, c'est ça, oui. Ah oui, je crois que c'est ça que j'ai dit, ouais. Mais je pense que c'était le service minimum, hein. Je pense que je pouvais pas. Oui, mon père. mon père, oui, c'est vrai, il était plus là. Et c'est, bon, je me suis dit César. Mais c'est vrai que j'ai entendu son prénom à peu près 200 fois toute la soirée. Je ne peux pas ne pas penser à lui non plus.
Ouais, ça doit être formidablement émouvant. Vous l'avez eu à nouveau aussi pour débattre mon cœur s'est arrêté.
Oui, voilà.
Vous avez fait combien de scénars avec Audiard?
Deux, moi je considérais que c'était voilà, on a fait deux beaux films quoi, puis c'était bah suffisant. Oui. Non, mais c'était quand je dis ça, c'est que voilà, après j'aurais peut-être pas voilà, peut-être en faire un troisième pas forcément, parce que je crois que c'est, lui il devait aller vers plus de voilà, moi aussi, c'est-à-dire que le truc c'est que c'est très très chronophage quoi. Et puis moi j'ai mes bébés. Si je n'étais que scénariste, je dirais que scénariste hein, c'est pas restrictif, mais moi c'est mes enfants, ce sont mes romans, et donc je veux me consacrer complètement à eux, quoi.
Justement, ce roman donc qui porte sur l'édition, c'est publié par Gallimard, tiré de faits irréels. Fabrice Pillot, vous êtes journaliste littéraire. Bonjour.
Bonjour.
Merci de venir à ce micro. Comment se porte l'édition en 2025? On entend des chiffres, 30 romans publiés par jour. Est-ce que tout va bien?
L'édition, elle va toujours. Un peu mieux ou un peu moins bien, elle a jamais des évolutions très fortes. Alors je sais pas, le début de l'année il est plutôt bon. L'année dernière elle a été assez médiocre pour l'édition.
Le baromètre c'est le nombre de ventes, le baromètre
c'est le chiffre d'affaires, c'est d'abord le chiffre d'affaires, mais je pense que ce qui est inquiétant, c'est pas forcément la conjoncture au sens strict, c'est plutôt des éléments plus structurels. Par exemple, l'année dernière, d'après les chiffres officiels, c'est moins 1% en termes de chiffre d'affaires, c'est pas un drame, mais c'est moins 3% en termes de nombre de volumes vendus. Ça veut dire que, en fait, si la baisse est pas plus forte, c'est parce qu'il y a eu une augmentation des prix, mais au total, en fait, il y a moins de livres qui se vendent. Et je pense que ce qui inquiète pas mal l'édition, c'est en fait le développement de l'occasion, qui est considérable. Alors, c'est pas l'occasion en soi, c'est très bien, il peut y avoir une dimension vertueuse, quoique sur le plan développement durable, ça se discute, on peut y revenir, mais sur les occasions, ni les auteurs, ni les éditeurs ne touchent de droit, ce qui pose quand même un problème à terme sur la création. Oui. Or, en fait, aujourd'hui, il y a à peu près 20% des livres vendus qui sont des livres d'occasion, et ça représente à peu près 9% du chiffre d'affaires aujourd'hui, et c'est en croissance très forte. Donc, il y a des enjeux de revenus pour le secteur.
Oui, pourquoi c'est pas vertueux d'un point de vue écologique? C'est discutable.
Parce qu'en fait, alors, ça dépend où vous achetez vos livres d'occasion et comment ça se passe. Mais si l'occasion s'est tellement autant développée, c'est à cause du développement de plateformes spécialisées. Et certaines sont basées en Allemagne, en Pologne, etc. Et donc, par exemple, vous vendez ou vous cédez gratuitement vos livres, il y en a une partie qui partent en camion en Pologne et qui ensuite vont revenir vers le client. Donc, si vous voulez, le bilan carbone de ces livres d'occasion, il est bien pire que celui de livres neufs. C'est pas le cas de tous les livres d'occasion. Oui. Mais disons, ce que je veux dire, c'est que ça mérite d'être évalué sur ce plan-là.
Est-ce que le monde de l'édition tel qu'il évolue en ce moment ne va pas vers la politique, essentiellement, plus que le romanesque et la science-fiction? Ce soupir en dit long.
Bon, oui, non, mais vous évoquez, parce que vous.
Ça dépend
vous
parlez, des maisons, voilà.
Vous dites non, ça à propos de Bolloré, du rachat d'Hachette par Bolloré,
et
par exemple.
Et de Bardella qui signe ses mémoires.
Oui, c'est ça.
À 12 ans, quoi. Donc.
Écoutez, ce qui est vrai, c'est qu'on voit apparaître, en fait, il y a une il y a une maison importante qui est la maison Fayard, qui a une histoire très différente de la voie qu'elle prend aujourd'hui, qui là est visiblement en train de se spécialiser, non seulement dans des livres d'extrême droite, de fait, Bardella, mais aussi, j'irais, je trouve ça presque plus inquiétant, parce qu'en fait, qu'un homme politique d'extrême droite soit publié quelque part, pourquoi pas, mais en fait, derrière ça, il y a aussi tout ce qui est légitimation, en fait, des soi-disant faits alternatifs, fake news, à travers, par exemple, la publication du livre de Xenia Fedorova, Bani, qui est quand même l'ancienne patronne de Russia Today, qui est interdite dans toute l'Europe. Ça pose problème que l'édition, enfin un éditeur là en l'occurrence, mais serve de légitimation à des fake news. C'est-à-dire qu'on voit apparaître ce qui apparaît déjà dans la presse. Enfin, il y a un risque en tout cas.
Et puis symboliquement, quand c'est lu dans un livre, le livre aussi, c'est une forme de vérité.
Absolument. Alors pour l'instant, c'est quelque chose d'assez circonscrit. Cela dit, il y a quand même eu il y a quelques jours un long message du CSE de Hachette Livre, pour s'émouvoir de la manière dont l'ensemble du... Enfin, en fait, ils sont quasiment utilisés par l'ensemble du groupe. Ils sont ils se considèrent comme embrigadés dans une forme de combat. Au siège d'Hachette, il y a des piles de JD News qui sont chaque... donc, journal du groupe Bolloré, et qui est plus un journal d'opinion qu'un journal d'information, qui sont à disposition, etc. Donc, voilà.
Merci beaucoup, Fabrice Fillot, d'être venu à ce micro. Merci. Merci. Tout à l'heure, dans la prochaine demi-heure, il y aura Julie Conti, il y aura Julien Santini et surtout Tonino Biennacquista, qui est notre invité jusqu'à midi. Avec Lisa Delmoitié, Julie Conti, Rebecca Balestra, Oldelave, Julien Santini, Daniel Morin.
Salut Santini.
Et notre invité, Monsieur Tonino Benacquista.
Allez, Nick.
Tonino, forza.
La bande originale, Leïla Kadour et Magui.
Tiré de faits irréels, ce roman, cette déambulation chez Gallimard dans la tête d'un éditeur, que se passe-t-il lorsque il n'a vécu que de passion, il n'a vécu que de rencontres, que de d'histoires d'amour avec ses héroïnes, et sûrement d'ailleurs un rapport assez particulier avec ses auteurs, parce que finalement c'est une histoire d'amour qu'il y a entre un éditeur aussi et un auteur.
Quand il y a un certain nombre de bouquins, à un moment donné, il y a...
Mais c'est pas que de l'amour d'ailleurs.
Il ne veut pas être ami.
Non, c'est des histoires d'amour. C'est pas que de l'amour, les histoires d'amour.
Non,
bien sûr.
Non, lui, il veut pas être ami pour rester très professionnel, quoi.
Oui.
Et voilà. Mais effectivement, il sait qu'il va laisser des orphelins derrière lui. S'il ferme la boutique, il y en a quelques-uns qui ne retrouveront jamais d'éditeur.
Alors, il y a toute la facette, évidemment, de son travail, de sa quête pour savoir comment s'en sortir, de faire ce dernier coup, entre guillemets, marketing, de réussir à sauver, à arriver devant le tribunal en disant « Mais non, je vais signer les mémoires d'un président de la République, je vais signer, j'ai réussi à débaucher tel ou tel auteur, donc il y a de l'argent qui va arriver, je vous promets.
Oui. »
Et puis, il y a sa vie privée. Et puis il y a sa douce, et puis il y a ce qui se passe chez lui. C'était Saint-Laurent. Alors, vous vouliez ce côté intime pour une raison précise ?
Moi, j'en connais un. Connais un très bien qui, effectivement, consacre sa vie au manuscrit. Et puis, bon, voilà.
Risque de passer moins de temps avec son épouse.
Bien
parce
sûr que oui.
C'est ça qui
bien
est
sûr
entendu,
que oui. Ouais. Lui est très consciencieux, hein, le mien, Bertrand Dumas. Et donc, lui, voilà, il ne peut pas résister à un bouquin qu'on lui envoie. Donc, il en lit beaucoup. Et après, ça finit dans une salle. Bon.
Et il y en a beaucoup, des péripéties, des rebondissements. Il s'en passe, des tonnes de choses en 24 heures, dans sa vie.
Et on lui souhaite d'arrêter, en fait. Moi, j'ai envie qu'il arrête. J'ai envie qu'il se repose. J'ai envie qu'il arrête de lire comme ça, qu'il soit tout le temps pris dans la roue comme ça. Il est dans une forme d'esclavage terrible.
Oui, de faire la connaissance avec la vraie vie à plus de 60 ans. C'est
mais pardon, c'est une spirale infernale de n'importe quelle personne sujet à l'approbation du public. C'est pareil pour un artiste pour faire ses albums, c'est pareil pour...
Sauf qu'il prend la lumière, l'artiste, là, c'est l'éditeur. Donc en plus, il est dans la soute. Les soutes de la littérature, non mais vraiment, il porte tout, quoi.
D'être éditrice, toi.
Mais il est aussi dans une espèce de rêve qui ne s'interrompt jamais.
Oui.
Alors bon, évidemment, il y a des mauvais rêves, il y a quelques cauchemars, mais aussi il y a des... Donc est-ce que le type y a vécu dans sa tête avec cette littérature que personne ne lira jamais ?
C'est ça.
Extrêmement agréable à lire, Tonino Benacquista, et c'est chez Gallimard, tiré de faits irréels. Voici Julien Santini.
Ah, bravo. Merci beaucoup. C'est à moi. Alors, merci infiniment.
C'est pas assez principe, oui.
Alors, la semaine dernière, je me suis rendu à un casting important qui va probablement changer ma vie. Seulement, je vous explique. Lui, vraiment. J'étais un peu en retard et du coup, je commence à marcher vite dans la rue. Et je me faisais cette réflexion qu'il y a des gens vraiment dans la rue, on dirait qu'il y a des bouts de trottoir qui leur appartiennent. Donc, techniquement, c'est difficile de les dépasser. Et moi, je suis un peu joueur. Donc, à un moment, je tente un dépassement improbable, un peu comme un pilote de F1.
Alors que dans le dernier virage, ce serait de la F1, mais très lente. C'est pas vraiment de la F1. Bref, j'essaye de contourner par la gauche, et là, Vlatipak, la personne, je vous le donne en mille, tourne à gauche. Je tente alors à droite, bim, elle tourne à droite. On dirait elle a des rétros. C'est grave, quand même. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il y a des gens qui déjà se baladent avec des rétros. Tout ça pour empêcher de se faire doubler. Je rappelle que je dois me rendre à ce casting qui va changer ma vie, donc je suis obligé de jouer ma carte magique, tel un joueur de poker. Yeah. Je fais tapis, c'est le moment où entre en scène Pedro Maria. Oh, écoute-moi bien, toi qui es devant au Pinsou d'où que tu es. Déjà que tu te balades avec des rétroviseurs, j'ai rien dit. Mais là, tu cherches quoi? Cosa è questa affare? Et là, la personne me répond, mais vous êtes fou. Et du tac au tac, putain, j'étais trop fier de moi, je lui sors, ouais, c'est celui qui dit qu'il y a. Je dépasse alors enfin cette personne, j'arrive dans le couloir du métro et je me rends compte que je n'ai pas de ticket. Déjà que je suis en retard. En plus, j'ai pas de ticket. Dis donc, ce rôle dans Meurtre à La Rochelle, est-ce que je le veux vraiment? Je suis à 5 mètres du portique, mais moi je ne vois plus un portique, mais une haie. À ce moment-là, dans ma tête, on est dans une épreuve de seul obstacle. C'est un peu comme une épreuve hippique, mais sans chevaux. Donc, pas une épreuve hippique, en fait. Ne me demandez pas comment, ne me demandez pas pourquoi, je franchis la haie en sautant par-dessous. Ça n'a aucun sens. Je dévale les escaliers 4 à 4. Je ne suis plus qu'à 2 mètres des portes du métro. J'entends le bip bip des portes qui se referment. Je peux la voir, mais devant moi, une personne s'arrête net. On dirait elle mène la réflexion de sa vie, mais juste avant de rentrer dans le métro. Putain, c'est pas le moment, cousine. Du coup, je dis pardon, pardon. Je lâche également un inattendu. On avance pas, mais on fait des choix. Revenons sur cette phrase qu'a pu penser la personne à côté d'entendre. On avance pas, mais on fait des choix. Trop tard, les portes se referment. Et là, double peine. J'entends une personne à côté de moi dire « Ah bah c'est Paris, hein. Paris, les gens sont pressés. » Et c'est vrai d'ailleurs que c'est la seule ville de France et de Navarre où les gens sont pressés. Je me faisais la réflexion, c'est vrai que moi je connais des gens de Lyon, de Strasbourg, de Nantes, personne n'est pressé là-bas. Vous n'entendrez jamais, vous seriez bien de mauvaise foi de pouvoir dire « Mais tu sais que moi la semaine dernière, c'était même un 15 février, je m'en rappelle parce que c'est extrêmement rare. Eh ben figure-toi que j'ai entendu quelqu'un être très pressé, je me suis fait la réflexion, dis donc qu'il est pressé celui-là. Mais alors vraiment, c'était bien la première fois en une décennie que je l'ai entendu. Espèce de fou, va. De toute façon, les gens qui commencent leur phrase en disant « les gens », ça m'énerve. C'est toujours « non mais les gens, c'est vraiment des connards ». Je rappelle que les gens, c'est nous. Il y a un moment où il va falloir accepter qu'on ait une part de connard en soi. Et moi, je vais vous dire, ça fait bien longtemps que je deal avec.
Merci.
Santini.
Tous les jeudis et samedis à 19h à la Gaîté Montparnasse.
L'événement Anthony Benacquista publie son nouveau roman chez Gallimard, tiré de faits irréels. D'autres événements culturels.
Oui. On cherche tous ensemble, Tonino, un documentaire qui débute avec une phrase de l'auteur et sémiologue Roland Barthes. Et on va se trouver dans ce documentaire dans l'abbaye d'Ardennes, près de Caen. Imaginez, c'est un lieu qui a été fondé au XIIe siècle, qui présente quelques 18 kilomètres de rayonnage, où sont conservées les archives de centaines d'auteurs. Wow. Une bibliothèque monumentale, en somme, avec des textes, majoritairement des textes originaux. Et grâce à ce matériau, le documentaire va pouvoir se concentrer sur un point commun à tous les auteurs avant le recours à l'ordinateur. Quel est-il, ce point commun?
Le papier.
Oui, mais un autre point commun.
La couverture.
Non. Dans la pratique de l'auteur, il y a un point commun avant l'ordinateur.
Donc la machine à écrire.
Il est visible par tous.
Le manuscrit.
Les brouillons.
Donc, qui dit brouillon dit
papier, tracé, les ratures.
Ah, les ratures. Un documentaire qui fait l'éloge de la rature. C'est le nom du documentaire. C'est et génial. La phrase de Roland Barthes, c'est « La littérature, c'est la rature ». Tout simplement. C'est l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, ce lieu dont je vous parle, qui a l'air complètement fou. J'ai très envie d'aller maintenant. Et ça nous permet, dans ce documentaire, d'aller à la rencontre d'archéologues de la littérature. Parce que finalement, c'est un peu ça le principe. Un manuscrit raturé, c'est tout l'intérêt, finalement, du travail d'un auteur. Non pas pour diminuer l'intérêt d'un livre, mais finalement, est-ce qu'un livre un peu ajouté, surdimensionné, ce serait pas le livre avec les ratures pour voir les
hésitations, pour voir le repentir de l'auteur, pour voir la rage aussi parfois, parce que on rature pas tout de la même façon, et on peut imaginer un auteur vivant derrière, et on rend la littérature un petit peu plus...
Tout ce qui a été coupé, il doit y avoir des chapitres
coupes,
entiers.
Tout ce que tu veux.
Tu dis un mot et tu dis non, celui-là il est trop violent, je le change, ça,
tu
c'est
le
génial.
Rayes, et puis tu y reviens, et puis finalement...
C'est un doc,
donc,
ça.
Ça, c'est un documentaire qui s'appelle donc Éloge de la rature, de Stéphane Miguel et Lucie Lahout, sur France TV jusqu'au 15 mai. C'est une découverte géniale. Ouais. Vous, la rature, Tonino, ça vous,
non,
ça vous parle?
Vous, la rature, c'est violent comme phrase,
non?
Il y a, voilà, très exactement ça dans Tiré de faits irréels. Il reçoit, il reçoit un manuscrit et il dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. En fait, il y a toutes les biffures, les ratures.
C'est pour ça que j'ai eu cette idée-là.
Voilà, c'est ça.
C'était, non, c'était le premier. C'était un qu'il n'avait.
Non, c'est-à-dire qu'il a, il le lit et dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça s'appelle version définitive. Ouais. Et il le lit et il dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il m'a envoyé un brouillon, le mec.
C'est pour ça, en lisant.
Et en fait, quand tu lui dis, c'est pas du tout un brouillon. Et là, il le relit.
Et la phrase de l'éditeur est d'une violence inouïe.
Oui.
C'est-à-dire, vous reviendrez quand elle sera vraiment.
Oui, voilà. Alors qu'en fait, il a la version, ce qui fait qu'il n'est pas du tout infaillible.
Et vous, la rature, vous, Tonino Benacquista, la rature. Si je devais jeter un coup d'œil, déjà, vous écrivez sur ordi maintenant.
Là, tu parles mal.
Vous, Tonino, la rature.
Vous avez forcément des petits carnets où vous notez.
Oui, bien sûr.
C'est le garde-manger de Balzac. C'est comme ça qu'il appelait ses petits carnets où il mettait toute sa petite matière. Oui. Vous rayez, vous rayez pas. Vous êtes comment là, dans ce rapport-là?
Vous voulez dire sur le quand
dans
je suis dans un texte même sur le style, vous voulez dire
oui
c'est mais moi je fais des allers et venus entre mon ordinateur et dès que j'ai un texte à peu près voilà dès que j'ai à peu près ma situation j'imprime et je travaille à l'ancienne
à la
donc, je sors
donc l'ordinateur c'est un tue la rature.
Non, puisqu'il imprime.
Oui, mais j'imprime, je corrige, je corrige au crayon.
Il faudra une police rature.
Les ratures sont réelles.
On les voit véritablement.
On les voit vraiment, oui, bien sûr.
Et il y a beaucoup de ratures dans vos textes. Vous êtes un gros ratureur. Je sais pas ce que j'essaie de pas.
Alors là,
raturiste.
On pourrait y rester longtemps. Le seul truc, c'est que pour celui-là, par exemple, qui est un bouquin assez court, eh bien, j'ai 3 ans de travail. 3 ans de travail parce que j'ai beaucoup plus écrit et j'ai beaucoup, beaucoup coupé.
Et oui.
J'ai dû couper 100 de feuillets parce qu'à un moment donné, je me suis dit non, là, c'est pas passionnant. Ça, mais ok, est-ce que c'est passionnant? Est-ce que ceci, cela? Et quand on est dans le monologue intérieur d'un individu, je veux dire, le premier risque, c'est de s'ennuyer, de partir dans des méandres. Et donc, j'ai coupé énormément. Et voilà. Mais comme disait Antoine Blondin, je ne peux pas résister à sa cité Blondin. Et tout le reste n'est que litre et rature.
Et rature. Alors justement, deuxième question. Grâce aux manuscrits et aux ratures, on se rend compte que les incipits célèbres tels que nous les connaissons, les premières phrases des livres donc, eh bien, n'ont pas toujours été ainsi. Elles ont pu être raturées, changées. Plutôt que... Je vous propose un petit jeu pour voir si vous connaissez bien vos incipits célèbres.
Voilà. Ah oui.
J'ai pris des trucs hyper simples, parce que on n'est pas là pour se faire du mal.
Il y a deux styles, hein. Vous dites celle qui résume et celle qui donne envie aussi, hein, vous en parlez dans votre livre.
Oui. Alors si je vous dis longtemps je me suis couché de bonne heure.
Du temps perdu.
Proust, absolument, du côté de chez Swann, le premier volume de La Recherche. Une autre, Chen tenterait-il de lever la moustiquaire? Un auteur français qui a eu aussi des responsabilités ministérielles.
Voilà. Ah, Bruno Le Maire.
Non. C'est André Malraux.
Oui, voilà.
André Malraux, La Condition humaine. Première phrase de La Condition humaine.
Vous dites, c'est la première phrase de La Condition humaine.
Chen tenterait-il de lever la moustiquaire? Point d'interrogation. Je me suis donc interrogée aussi sur ces incipits qui ont des valeurs très très différentes.
Bien
soit
sûr.
C'est des valeurs informatives, soit c'est des valeurs un petit peu qui a cette ambition de nous plonger tout de suite dans le récit, in medias res, comme ça on est très efficace.
Absolument.
Soit de nous alerter ou de nous bousculer d'une autre façon. Donc je suis allée voir votre incipit dans Tiré de faits irréels. Votre incipit. Alors, si j'exclus le prologue, parce que c'est un prologue, c'est sans doute pour ces raisons-là que je suis devenu éditeur. Demain, pour bien d'autres raisons, je ne le serai plus.
Celui-là n'est pas spécialement...
Il est informatif.
Oui, mais parce qu'il suit le prologue.
Oui,
voilà.
Oui, puis il y a une mise en abîme du « cela commence hein. ». Incipit en latin, c'est le commencement du roman tiré de faits irréels chez Gallimard.
Tonino, c'est pas une émission de bourrin, ici.
Benacquista. Et voici Julie Campi.
Coucou, sachez les amis que mars, c'est le mois de l'endométriose. Youpi ! Bonne fête l'endométriose ! Wouh !
non, c'est peut-être pas le truc à faire. Je sais jamais comment réagir quand il y a ce genre d'opération. Faudrait peut-être faire de la prévention. Je pourrais filer un coup de pied dans les roustons des personnes que je croise. Comme ça, ils arrivent enfin à ressentir ce que les femmes victimes d'endométriose ressentent. Hein, et tiens, quand tu seras relevé, prends un prospectus. Non, mais la meilleure chose à faire, ça reste quand même simplement de parler d'endométriose. Et alors, Jamy, dis-moi, l'endométriose, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Fred, c'est une maladie invisible, chronique, qui peut affecter la fertilité, pour laquelle il n'existe pas de traitement définitif et qui se déclare avec les règles et se termine généralement à la ménopause, soit une petite quarantaine d'années, oh, trois fois rien, une demi-carrière de Drucker, c'est pas grand-chose. Hein. Et je sens le malaise qui est en train de s'installer. Oh non, elle va nous parler des ragnoutes, la dodu. Eh oui, effectivement, ça va parler de santé féminine et ça risque de tourner autour du frifri, alors éloignez les enfants du poste. En fait, non, vous savez quoi? Approchez les gosses du poste et montez le son. Faut arrêter avec ce tabou autour des règles. Si cette maladie elle est aussi mal prise en charge, c'est parce qu'on est aussi mal à l'aise en parlant des règles qu'un politicien à qui on rappelle des promesses de campagne qu'il a pas tenues, quoi. Et les femmes qui souffrent d'endométriose ressentent des douleurs comparables à des lames acérées transperçant leur abdomen ou à un feu qui consume leur bide. On dirait un peu le traitement réservé aux sorcières au Moyen-Âge, mais sans le côté convivial avec tout le village qui venait regarder, quoi. Et les gars, pour vous faire une idée niveau douleur, ça fait presque aussi mal que quand vous avez un gros rhume, hein. Très douloureux. Et ces douleurs sont causées par la présence d'endomètres en dehors de l'utérus. Alors l'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Non, parce que c'est vrai qu'on dirait plutôt le nom d'une distance méconnue. Hein. Un ectomètre, ça fait 100 mètres. Un kilomètre, ça fait 1000 mètres. Et un endomètre, ça fait méga mal quand c'est enflammé. Et comme l'endomètre est en dehors de l'utérus, ben, il peut pas être évacué pendant les règles. En gros, l'endométriose, c'est un peu les personnes sous OQTF que Bruno Retailleau, il n'arrive pas à expulser. Voilà, ça, cette comparaison, c'était juste pour que CNews s'intéresse ainsi au sujet. Hein. Prévention, prévention, prévention. Et on banalise la douleur des femmes. Oui, les règles, ça fait mal. Oh, tu enfanteras dans la douleur. On a l'impression qu'avoir mal, ça fait partie de l'expérience d'être femme avec 20% de salaire en moins et recevoir de l'électroménager pour Noël. Pour être transparente, j'ai pas d'endométriose. Bon, je suis ringarde, hein. J'ai jamais les trucs à la mode. J'ai pas de crypto, j'ai pas de TDAH et je bosse sur Inter en 2025. Ah, une vraie has-been, quoi. Genre. Et enfin, j'ai pas d'endométriose. J'ai pas, j'en sais rien. Hein. Quand j'ai mes règles, j'ai quand même l'impression d'avoir les Gypsy Kings qui font un live dans ma boîte à plaisir. Hein. Baila, quand même. Oh, et on se calme les Gypsy Kings, hein, que ça c'est mes ovaires. Hein. Non, mais on n'a jamais diagnostiqué d'endométriose. Mais ça, c'est le gros problème avec cette maladie. Pour la diagnostiquer, il faut un examen clinique, de l'imagerie et même parfois de la chirurgie. Et il faut bien sûr des gynécologues. Et la France manque cruellement de gynéco, des pros. Hein. Non, parce que des amateurs qui touchent les femmes sans qu'on ait rien demandé, ça on en a. Il y en a plein, ouh, on n'en manque pas. Et en France, il faut compter en moyenne 7 ans pour qu'une femme se voit poser un diagnostic sur ses douleurs. 7 ans de douleur, c'est long. Pour les gens de droite, pour vous faire une idée, c'est un mandat de Mitterrand. Et pour les gens de gauche, ben, c'est à peu près n'importe quelle cette année de votre vie. Hein. Alors que pour diagnostiquer un cancer de la prostate, c'est beaucoup plus rapide. Un examen sanguin, un doigt dans le péteux et c'est réglé. Hein. Ou comme on appelle ça à Radio France, un apéro du vendredi. Et un test salivaire a été récemment développé qui permettrait de diagnostiquer l'endométriose en 10 jours. Et la boîte française qui a mis au point cet examen affirme qu'il est fiable à 97%. Mais le ministère de la Santé veut vérifier son efficacité à grande échelle avant de généraliser son remboursement. Bah oui, je veux dire, on a attendu des milliers d'années, on n'est plus à 3 mois près. Hein, parce qu'on a l'impression que l'endométriose, c'est nouveau et qu'il faut laisser du temps à la science. Mais les premières mentions qui font penser à cette maladie datent de l'Égypte ancienne. On a trouvé des hiéroglyphes qui veulent dire « Ah, ça fait mal, sa mère, la pharaone !» Et plus de 3000 ans et on n'a toujours pas de traitement. Pourtant, en France, on estime que l'endométriose touche de 1,5 à 2,5 millions de personnes. Même l'abbé Pierre, il est impressionné par ses stats. Enfin, 2,5 millions de personnes, je veux dire de femmes. Petite impression que ça compte pas pareil. Hein. Quand c'est pour nous soigner, il n'y a personne. Mais quand c'est pour nous dire comment nous fringuer, alors il y a du monde. Hein. Et je termine en ajoutant que l'endométriose rend douloureux les rapports sexuels et peut totalement les empêcher. Ah bah tiens, voilà. Comme ça, les hommes auront enfin une bonne raison de nous aider à vaincre cette maladie.
Julie Conti sur scène le 1er avril à la Petite Loge à Paris, c'est la première. Et après, ce sera tous les mardis et le 9 mai à Fribourg et le 10 mai à Genève. Wow.
Tiré de faits irréels, Tonino Benacquista chez Gallimard. Vous avez mis 3 ans, vous nous dites, à écrire ce roman. Donc j'imagine que vous êtes déjà sur le suivant ou sur une bande dessinée ou sur un scénario.
Non, je suis sur le suivant, mais... j'ai assez peu d'espoir sur le suivant parce que
ça veut dire quoi?
Mais parce que c'est des nouvelles.
Ah ben c'est bien.
Eh ouais, mais non.
Non.
Pourquoi non?
Mais non, mais parce que en France, ça n'est pas un genre reconnu.
Oui, mais il y a le Goncourt.
Ah, je vous assure.
Il y a le Goncourt des nouvelles.
Bah, oui, mais bon, peu importe, les gens achètent assez peu de nouvelles. C'est le romanesque qui mange tout.
Mais alors les nouvelles, c'est-à-dire c'est plein de pitchs différents qui pourraient donner des romans.
Ça a pu être ça il y a longtemps. Oui. Je me dis, tiens, c'est dommage, là, avec cette idée-là, on pouvait faire. Là, maintenant, je vois ça complètement différemment. Je crois que c'est.
Et pourquoi vous lâchez pas le bout, alors? Si vous dites, c'est pas une solution, les nouvelles, ça se vend
mais
pas.
Mais parce que. Ah non, non, ça se vend pas, c'est sûr. Mais j'ai une passion pour la nouvelle. Oui. Une véritable passion. Je crois que les auteurs. Là, par exemple, quand je parle de Borges, Borges, bah, 15 pages. Mm. Il change votre façon de voir l'univers. Oui. Mais il n'a pas besoin de 300 pages, il a besoin de 15. Et c'est ça que j'aime dans la nouvelle.
Il y a un thème commun à toutes les nouvelles que vous êtes en train d'écrire ?
C'est court. Non. Non.
C'est pas le même sujet vu de
non,
différents...
Non. Il y a non, effectivement il y a un thème commun qui serait l'imagination, notre imagination. Oui. C'est-à-dire celle, notre part d'imagination, je dis à nous lecteurs, hein. C'est-à-dire, voilà, dans notre vie, quelle est la part qu'on laisse à la vie virtuelle et la vie réelle. Mais la vie, là, je pense qu'on passe beaucoup plus de temps dans notre vie virtuelle à nous, quoi. C'est-à-dire notre.
Vous êtes un peu déjà ancré dans la réalité, tiré de faits irréels. Voilà.
Notre roman à nous.
Imagination, enfin bon, voilà.
Très bien. Voilà. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oh, bien sûr, déjà, désolé pour tous nos auditeurs amoureux des livres qui ont été choqués par la dimension marketing, stratégie, chiffre d'affaires, etc. de l'industrie de l'édition. Trop peu sur le côté littéraire, le plaisir de lire, de partager ses émotions, trop de marketing. Heureusement que Leïla était présente autour de cette table pour donner un peu de hauteur à tout ça. Leïla, je t'ai trouvée très performante sur le segment impact émotionnel de l'expérience de lecture. Tu étais facilement à 95% de satisfaction, transmission sur population CSP moins de province. Bravo, ton ratio, temps de parole, conviction littéraire, consommation rapide en circuit court est excellent. Si tu continues comme ça en fin de saison, tu auras un excellent bilan. Merci. Désolé pour Alexandre de la Patelière, Mathieu Delaporte, Pierre Minet, bref, tous ceux qui ont bossé sur l'adaptation du Comte de Monte Cristo et qui ont bien compris que Tonino Bellacqua avait trouvé leur version. Comment dire? Ah bah le gars, il empile les Césars. Il est difficile, il est pointilleux, il chipote, il est jamais content. Est-ce qu'il serait pas un peu casse-bonbon bon le Bellacqua?
Je ne sais pas.
Désolé enfin pour Copa y Segundo, Fidel Castro, l'Europe Havana Club, les burritos, bref, Cuba, hein, dans la culture était un petit peu salopé par le Bellacqua Social Club. Oh là, ça va. C'est pas comme si. Enfin, si, désolé.
Merci Tonino et bravo.
Merci
Tonino Bellacqua, donc tiré de faits irréels chez Gallimard. Demain, Jonathan. Lundi, pardon.
Non, ouais, tu viens demain.
Oui, c'est le week-end. Jonathan Zakaï et Olivier Rabourdin seront nos invités pour parler de la série Kaboul. Belle journée sur Inter.
Merci.